Bonjour et bienvenue sur Radio Simone en ce lundi 23 mai 2050 pour une spéciale 30e édition. Je suis Loan.
Et moi Nils.
Nous sommes des élèves de 4e du collège Simone de Beauvoir et nous serons vos présentateurs de cette web radio. Aujourd'hui, nous allons faire un retour vers le passé en repartant 25 ans en arrière. Nous avons choisi l'année 2025 et avons retrouvé des sujets réalisés par des journalistes de Radio Simone en 2025, afin de constater l'évolution de certaines thématiques en 2050.
Voici le sommaire de notre émission. Tout d'abord, nous allons écouter Léa, Loris et Caïs à propos du collège Simone de Beauvoir en 2050.
Ensuite, nous évoquerons les relations amoureuses avec Dino et Mathieu.
Puis, les libertés en 2050, dans celle de la femme avec Anaëlie, Janaé et Elie.
Ensuite, nous ferons le point au sujet de la montée des eaux à Frontignan avec Nolan et Gaëtan. Nous évoquerons l'avenir des stations de ski avec Elia, Léna et Mathis.
Sans oublier l'évolution du handball en 2050 avec Arthur, Théo et Arthur.
Nous vous présenterons celle du rallye des gazelles avec Abigail, Léa et Maxime.
Puis l'évolution des Jeux Olympiques en 2050 par Gauthier et moi.
Ainsi que l'utilisation de l'IA en 2050 présentée par Inès et moi-même.
Pour terminer, nous évoquerons les astronautes en 2050 et plus particulièrement la planète Mars. Comme planète refuge avec Mélissa et Melinda.
Nous allons maintenant débuter les sujets. Pour le premier sujet, nous accueillerons Léa, Loris et Caïs qui avaient interrogé à l'époque les élèves du collège sur l'avenir de l'enseignement dans notre établissement. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Nous avons interviewé des élèves en 2025 pour voir ce qu'ils allaient penser du collège en 2050.
Nous écoutons dès maintenant les témoignages recueillis en 2025 dans la cour du collège.
Bonjour, je m'appelle Nolan Niergo, je suis en 4e A.
Est-ce que vous pensez que le collège aura changé en 2050 et si oui, pourquoi?
Oui, je pense qu'il va changer parce que le collège, je pense qu'ils vont refaire les peintures parce que ça commence à être un peu vieux.
À votre avis, est-ce que les élèves utiliseront de nouveaux outils technologiques en classe? Si oui, lesquels?
Je pense qu'ils auront des genres de tablettes, tout le monde aura des poubelles à disposition.
Est-ce que l'IA sera plus utilisée à ton avis?
Je pense, oui.
Pourquoi?
Pour répondre aux questions et tout, en classe.
Quels avis les professeurs et les surveillants pourraient-ils remplacer par des robots?
Non, je pense qu'ils ne seront pas remplacés par des robots, parce qu'ils ne pourraient pas répondre à certaines questions.
Quel serait le collège de tes rêves en 2050?
Ça serait un collège où il n'y a pas cours et où il n'y a pas de devoirs.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter?
Bonjour, je m'appelle Arthur Val en 4e A.
Est-ce que vous pensez que le collège aura changé en 2050 et si oui, en quoi?
Ouais, moi je pense en vrai il pourrait changer parce que ouais, les peintures elles sont pas très bien là. En vrai peut-être la cantine, peut-être l'améliorer après sinon.
À votre avis, est-ce que les élèves utiliseront de nouveaux outils technologiques en classe? Si oui, quels outils?
Avec genre des tablettes avec l'IA dessus pour répondre à des questions.
Quelle nouvelle matière pourrait être enseignée et toi, quelle matière rêverais-tu d'avoir?
Il n'y a pas vraiment de nouvelles matières parce qu'en vrai, le collège, c'est un petit peu complet. Peut-être à peu près la philosophie.
À votre avis, les professeurs et les surveillants pourraient-ils être remplacés par des robots?
Non, en vrai, je pense pas parce que quand tu es surveillant, tu as une intuition, genre qu'il se passe un truc alors que les robots, je pense pas.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter?
Bonjour, je m'appelle Léo, en 4e E.
Est-ce que tu penses que le collège aura changé en 2050?
Bah oui, il aura changé parce qu'ils auront tout refait la façade.
À ton avis, est-ce que les élèves utiliseront des nouveaux outils technologiques en classe?
Les ordinateurs pour écrire dessus, en mode il n'y aura plus de stylo ni de papier, je pense.
Est-ce que l'IA sera plus utilisée à ton avis?
Je pense que oui, quand même.
Pour quelle fonction?
Pour faire des exercices, pour comprendre des choses.
À ton avis, les professeurs et les surveillants pourraient-ils être remplacés par des robots?
Non.
Pourquoi?
On ne peut pas remplacer des gens par des robots.
Et quel serait le collège de tes rêves en 2050?
Je sais pas, un collège qui vole. Collège. Avec une piscine.
Moi, ce sera plus le collège en 2050.
Bonjour, je m'appelle Inaï Mourira, en classe de 3e E.
Est-ce que tu penses que le collège aura changé en 2050?
Non, je pense pas qu'il va changer en vrai.
Pourquoi?
Parce que l'éducation, elle est bien comme elle est maintenant.
À ton avis, est-ce que les élèves utiliseront des nouveaux outils technologiques?
Je pense qu'il y aura des tablettes à l'école pour être plus dans le travail. des tablettes plutôt que les cahiers.
Est-ce que l'IA sera plus utilisée à ton avis ?
Oui, je pense que les élèves ils vont faire leurs devoirs, ils vont utiliser l'IA, je pense.
À ton avis, les professeurs et les surveillants pourraient-ils être remplacés par des robots ?
Oui, je pense, mais pas en tout cas dans cette ville.
Pour toi, quel serait le collège de tes rêves en 2050 ?
Une école où on est libre de dire de ce qu'on pense et qu'on ne se fait pas punir pour rien.
Certains élèves avaient raison car le collège en 2050 est très écologique avec son label 3D, des espaces verts au sein des établissements, ateliers pédagogiques et sensibilisation à la protection de l'environnement sont les premiers piliers de l'école de 2050. Car l'école est une école plus verte afin de favoriser l'éducation sur le développement durable.
Il y a aussi des fermes avec des animaux de toutes sortes pour les protéger. Il n'y a plus besoin de papier ou de cahier car toutes les matières sont réunies dans la même salle de classe qui est équipé de bureaux tactiles qui enregistrent tout notre travail. La population a beaucoup diminué par rapport à 2025, donc dans les collèges, il y a peu d'élèves, ce qui fait une meilleure scolarité, donc un meilleur niveau.
Les élèves sont aussi équipés chez eux pour être en enseignement alternatif. Le matériel est fourni par le collège. L'État n'a pas assez d'argent pour financer le matériel, donc les entreprises le font pour avoir une publicité et que les élèves ne manquent de rien. Pour finir, l'actuelle présidente a lancé une convention sur les cours par visionnage qui prennent beaucoup de place.
Merci à tous les trois.
Maintenant, c'est au tour de Dino qui va vous parler de l'évolution des relations amoureuses ces 25 dernières années. À toi Dino.
Bonjour à tous. En 2025, une relation amoureuse chez les collégiens était un sentiment fort et partagé entre l'un et l'autre. Ils se rencontraient souvent au collège, puis parlaient sur les réseaux sociaux. En 2050, les relations au collège existent toujours. Elles ne sont pas si différentes de 2025. Les relations en général peuvent désormais se faire avec des robots qui remplacent en partie les humains. Comme les gens peuvent se marier avec des robots, les divorces sont aussi réduits car les robots s'énervent moins contre leurs partenaires. Il existe moins de personnes seules. Les relations amoureuses de nos jours sont un mélange de technologie et de psychologie. Ce qui est certain, c'est que la façon de se rencontrer et de construire des relations sont très différentes et complexes qu'il y a 25 ans. Pour se rencontrer en 2025, certains adultes utilisaient des applications de rencontres. Environ 2,3 millions de visiteurs par an. Par exemple, Tinder et Mythic étaient beaucoup utilisés par les jeunes adultes. Ils reposaient sur un principe simple. Une photo et une courte biographie d'un utilisateur apparaissaient. Si on était intéressé, il fallait swiper à droite. Si ce n'était pas le cas, il fallait swiper à gauche. Si les deux utilisateurs swipaient à droite, alors c'était un match. Et ils pouvaient commencer à discuter. Ce système de match rendait les rencontres très simples. Je vous ai parlé des applications de rencontres en 2025. Maintenant, je vais vous parler de celles d'aujourd'hui. De nos jours, les applications de rencontres existent toujours. Mais elles sont radicalement transformées par les avancées technologiques. 4,8 millions de visiteurs par an. Elles lient la réalité virtuelle, l'IA et d'autres innovations pour offrir des expériences plus immersives, personnalisées et profondes. Les rencontres sont plus intelligentes, plus précises et la manière dont les gens se connectent peut s'étendre au-delà du monde physique grâce à des rencontres via réalité virtuelle. Pour conclure, les applications de rencontres existent toujours, mais elles ont été améliorées comparées à 2025. L'avenir des rencontres pourrait être peuplé de personnages numériques, comme des robots, alimentés par l'intelligence artificielle qui se met en relation.
Incroyable la vie sans robot. Aujourd'hui, on ne pourrait plus imaginer un retour en arrière dans nos relations. Merci à tous les deux pour ces révélations croustillantes. On passe maintenant à un sujet plus sérieux qui concerne nos libertés et nous accueillons pour en parler Anaëlie, Janaë et Ellie.
Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un bond dans le passé et revenir au XXe siècle et au tout début du XXIe siècle. Avant le 17 janvier 1975, les femmes ne pouvaient pas avorter au nom de la loi. Même si certaines d'entre elles le souhaitaient absolument, elles pratiquaient alors ce que l'on appelait un avortement clandestin. Des médecins, sages-femmes ou personnes engagées dans la lutte pour le droit des femmes à disposer de leur corps faisaient avorter les femmes malgré les interdictions de la loi. Aussi, d'autres femmes avortaient seules chez elles, ce qui leur coûtait parfois la vie. Le 19 janvier 1975, les choses ont énormément changé en France grâce à Madame Veil de son vrai prénom, Simone Veil. Qui est née le 13 juillet 1927 à Nice. Elle est issue d'une famille juive, patriote et laïque, ensuite déportée à Auschwitz. Elle a été magistrate, avocate, politicienne et présidente du Parlement européen, avant de mourir le 30 juin 2017.
Madame Veil a permis aux femmes d'avoir le droit d'avorter grâce à cette loi dite « loi Veil » du 17 janvier 1975. Mais malheureusement, de nombreuses femmes d'autres pays n'ont toujours pas eu cette chance. Le 2 mars 2022, les choses s'améliorent pour les Françaises, car la loi allonge la date limite pour avorter. Elle passe de 12 à 14 semaines. Le 16 janvier 2025, l'IVG est inscrite dans la Constitution en tant que liberté fondamentale. Aujourd'hui, en 2050, les lois françaises ne cessent d'évoluer positivement pour les femmes. Des médecins ont inventé des machines avec des rayons qui détruisent l'embryon pour que les femmes puissent avorter plus rapidement et facilement. Malheureusement, les pays ne fonctionnent pas tous de la même manière à cause de plusieurs dictateurs qui ont une mauvaise influence sur d'autres États. Mais malgré cela, certaines femmes continuent à se battre pour leurs droits.
Maintenant, je vais vous parler des libertés de la presse depuis 2025. En 2025, la France était au 25e rang mondial de la liberté de la presse car il existait des conflits d'intérêts, c'est-à-dire que les financeurs des médias faisaient de plus en plus pression sur les journalistes. Les sources d'information des journalistes étaient de moins en moins protégées. La presse en général manquait de financement, ce qui réduisait les libertés des journalistes puisque ceux-ci ne pouvaient pas travailler sur tous les sujets et ils souffraient constamment des violences policières quand ils couvraient des manifestations. Depuis 2050, en France, la cybercriminalité n'a cessé de monter en puissance. La plupart des citoyens ont ainsi construit une relation de confiance avec les médias et participent au financement de la production de celui-ci. Beaucoup de citoyens contribuent au financement de l'information pour pouvoir s'informer. Les journalistes, créateurs de contenu et autres producteurs d'informations, aujourd'hui peu nombreux à cause de l'utilisation massive de l'IA, s'appuie sur les principes d'une charte déontologique, celle de Munich, pour fournir du contenu fiable et juste.
Merci à toutes les trois pour ce bilan des libertés en 2050. Nous accueillons à présent Nolan et Gaëtan qui vont évoquer la montée des eaux en 2050 chez nous à Frontignan.
Bonjour, nous étions élèves au collège Simone de Beauvoir et à l'heure actuelle, notre collège a fait construire une digue pour parer la montée des eaux.
En effet, en 2025, les spécialistes prévoyaient que l'eau allait monter de 25 cm d'ici 2050. Les spécialistes disaient vrai. Plusieurs zones annoncées par le PPRI, plan de prévention de risque d'inondation, comme par exemple les Salins, qui sont maintenant sous l'eau, le Lido a aussi été rompu, il n'y a plus de voies ferrées et la mer et l'étang ne font plus qu'un. L'écosystème de l'étang et de la mer Méditerranée sont maintenant obligés de cohabiter. Les mollusques de l'étang ont été mangés par les poissons provenant de la mer, alors une partie de l'économie commerciale de Frontignan a été supprimée.
Il y avait une partie de la population qui pensait que ça n'allait pas arriver dans le témoignage de Jean-Luc Matroussel, ce retraité de l'industrie nucléaire, vit à Frontignan-Plage depuis 60 ans, dans une maison familiale qui est là depuis 125 ans. On veut nous faire peur avec la montée des eaux, mais pour moi, ça produit l'effet inverse. Ce que je vois depuis des années, c'est que ça monte, mais ça finit toujours par redescendre. Je ne comprends pas qu'on en parle autant aujourd'hui.
Monsieur Linares, ancien président de l'agglomération de Sète, avait aussi une vision optimiste. Différents projets ont été présentés en 2025 lors d'un concours qui se nomme « Habiter le littoral demain » pour trouver des solutions face à la montée des eaux à Frontignan. Le projet gagnant a été le projet OYAT, présenté par Madame Nave Laura, agence Archer La Marseille. Il remporte le premier prix du concours et la mention spéciale du jury dans la catégorie « Innovation et résilience ».
Ce projet consiste à concevoir une architecture littorale plus légère, pouvant être démontée l'hiver et déplacée selon la montée des eaux. À présent, nous allons écouter l'interview de Monsieur Linares.
Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis Loïc Linares, je suis vice-président à Sète Agglopole Méditerranée. C'est-à-dire que j'ai une délégation que le maire de la ville ou le président de l'agglomération m'ont confié des délégations, à savoir la démocratie participative, et puis l'aménagement du territoire et la transition écologique.
Qu'en est-il aujourd'hui de la montée des eaux à Frontignan ? A-t-elle débuté ?
Alors oui, elle a débuté. Il y a plusieurs phénomènes qui sont liés à la montée des eaux. Il y a des bureaux d'études techniques et scientifiques qui font des relevés réguliers. Il y a même des satellites qui maintenant mesurent le niveau des mers et des océans. Ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à présent, la Méditerranée, elle a augmenté à peu près de 20 cm. Et ensuite, il y a un autre phénomène, c'est l'érosion du trait de côte. C'est-à-dire que le trait de côte, c'est la limite entre la terre et la mer. Donc là, c'est du sable sur la plage. Et le trait de côte, il a aussi évolué dans le temps parce qu'il y a beaucoup moins de sédiments. Alors les sédiments, c'est le sable qui est au fond de la mer. Ce sable, il arrive essentiellement chez nous à Frontignan par le Rhône. Et le volume de sédiments a beaucoup chuté sur ces 100 dernières années à travers l'activité humaine, c'est-à-dire notamment la construction pour construire des maisons, des barrages, des immeubles. On va puiser du sable dans le Rhône pour l'utiliser après pour les constructions. Ce qui fait qu'il y a moins de sable sur les plages et le trait de côte a déjà reculé.
Quelles sont les prévisions?
À partir partir des éléments que je viens de vous citer, hein, c'est-à-dire tous les relevés scientifiques et techniques qu'on connaît déjà, plus à travers le GIEC, c'est le groupement international scientifique qui travaille sur la question climatique. Le GIEC a établi des scénarios d'évolution du climat et donc de conséquences liées au réchauffement, avec une montée des eaux encore plus importante. Et il y a un autre phénomène dont on n'a pas encore parlé, c'est les tempêtes, ce qu'on appelle les submersions. Quand la mer est grosse, avec beaucoup de vent, avec des grammes de vagues, la mer, du coup, elle peut pénétrer sur les bandes de sable. Donc, c'est une donnée aussi que les scientifiques prennent en compte. Et donc, à 30 ans, sur Frontignan, ben, ça va commencer à bouger. Et les plages devraient être de plus en plus étroites, en fait. Peut-être quelques maisons pourraient commencer à être touchées. Et à 100 ans, là, par contre, Frontignan-Plage serait très impactée. Ça pourrait être sous l'eau. Peut-être que ça sera plus, peut-être que ce sera moins. Mais l'idée, c'est d'avoir un suivi régulier, fréquent, chaque 10 ans.
Est-ce que la mairie de Frontignan s'est-elle emparée du sujet ?
Oui, on s'en est emparé pour essayer, dans un premier temps, d'aménager et de protéger. Et aujourd'hui, dans un deuxième temps, de s'adapter et de préparer un avenir, reconstruire le territoire à 100 ans d'une manière différente. Donc en 2020, on a finalisé des travaux où on avait pompé du sable à l'Espiguette, c'est-à-dire à Port-Camargue. On l'a mené sur le littoral ici à Frontignan. Ça a coûté pratiquement 14 millions d'euros. Donc vous imaginez qu'on peut le faire une fois, on peut peut-être le faire deux fois, mais on ne pourra pas faire ça éternellement. Et donc aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase, c'est-à-dire permettre aux gens qui habitent aujourd'hui à la plage, dans le temps, de pouvoir petit à petit déménager à d'autres endroits.
Est-ce que notre collège aura les pieds dans l'eau en 2050 ? Si oui, avez-vous prévu un autre endroit et où iraient les élèves ?
Alors soyez tranquille, votre collège en 2050, il ne sera pas les pieds dans l'eau. Et à l'horizon 2100, d'ailleurs, dans les premières cartographies qu'on a, à l'horizon 2100, non plus. Sur la partie Frontignan-Ville et non pas Frontignan-Plage, à l'horizon 2125, il y a uniquement le quartier des Prés-Saint-Martin, pas loin du collège, hein. Mais le collège, lui, ça irait encore.
Cette montée des eaux est-elle en lien avec le réchauffement climatique ?
Oui, complètement. Donc, comment la ville aussi s'engage, c'est qu'on a créé, au-delà des réunions publiques qu'on a faites, on a créé des rendez-vous mensuels qu'on appelle les samedis pour demain, où on fait venir des scientifiques, des philosophes et des personnes en ressources pour discuter justement des dérèglements climatiques en cours et de ses conséquences. Et là, clairement, oui, la montée des eaux, la fréquence de même, peut-être des tempêtes plus importantes, c'est lié à ces évolutions climatiques.
Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie d'être intéressé par ces sujets. Au revoir.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'évolution des stations de ski depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui.
Aujourd'hui, en 2050, il reste uniquement 67 stations de ski. Depuis 1970, ce sport d'hiver disparaît progressivement à cause du réchauffement climatique qui rend la neige moins fréquente. En 2025, 230 stations de ski fonctionnaient, ce qui veut dire qu'en 25 ans, 163 stations de ski ont dû fermer. Ces stations concernées étaient en basse altitude, 1200 mètres. Ce manque de neige avait déjà été évoqué par Nature Climat, un journal sur les stations de ski, qui disait qu'en cas d'élévation des températures de 2 degrés, 53% des stations manqueraient de neige. Ce chiffre pourrait monter jusqu'à 98% si les températures augmentaient de 4 degrés. Depuis 1970, les stations utilisent de la neige artificielle, qui est très consommatrice en eau et en énergie, pour essayer de sauver des stations en manque de neige. Cependant, même avec la neige artificielle, les stations comme celle des Pyrénées, comme Artoust, située à 2100 mètres d'altitude, à 20 km de la frontière espagnole, ont fermé. Une grosse partie des basses Alpes ne peuvent pas être sauvées car la neige artificielle fond. Comme exemple, nous avons le Grand Puy, situé à 1800 mètres d'altitude. Si le réchauffement climatique continue de s'accentuer, il se pourrait bien que toutes les pistes soient bientôt impraticables.
On parle aujourd'hui uniquement des stations qui sont en trop basse altitude et qui sont en train de se transformer en ville grâce aux agglomérations d'à côté. L'exemple de Morzine, une station située à 1800 mètres d'altitude dans les Alpes, à 65 km de la frontière suisse, est révélateur. Morzine transforme la station en ville. Depuis quelque temps, plusieurs stations se servent des remontées mécaniques pour emmener des personnes en haut de la montagne,
pour faire des balades ou faire du VTT contre une somme d'argent pour ne pas laisser les remontées mécaniques au repos et apporter une ressource financière. Nous avons l'exemple du puits de Sancy où les remontées mécaniques peuvent nous emmener en haut de la montagne pour la somme de 9 euros la place pour l'aller et l'aller-retour pour 18 euros.
Nous pouvons estimer que la place de seconde dans le rang mondial du tourisme hivernal pourrait vite changer. Nous estimons déjà que si aucune solution n'est trouvée pour que la température cesse d'augmenter d'ici quelques années, nous pouvons déjà dire que ce sport d'hiver disparaîtra définitivement. Nous vous remercions de nous avoir écoutés.
Merci à tous les trois. Nous poursuivons dans le domaine du sport avec une mise en lumière sur le handball toujours pratiqué en 2050 par les élèves de la section sportive du collège Simone de Beauvoir. Nous écoutons Arthur, Théo et Arthur.
Bonjour. En effet, comme Loan vient de le dire, nous allons vous parler de ce sport collectif qui nous tient à cœur. Ce sport se joue à 7 contre 7, 6 joueurs sur le terrain et un gardien. Le match est divisé en deux parties de 30 minutes, ce sont les mi-temps. Ce sport a été inventé en 1919 par un professeur d'éducation physique allemand, Karl Schellens.
La France est la nation la plus titrée du côté des hommes, qui compte 6 titres de championne du monde, 4 titres de championne d'Europe et enfin 3 titres de championne olympique. Et du côté des femmes, médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Rio, mais gagnante aux Jeux Olympiques de Tokyo. Médaillée de bronze aux championnats d'Europe et surtout, les deux titres au Mondial et à l'Euro en 2016.
Nous avons retrouvé une interview d'un joueur professionnel du Frontignan Tau Handball, Camille d'Ambreville, qui date de 2025.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle donc Camille d'Ambreville, donc je suis joueur au Frontignan Tau Handball. Et je suis aussi entraîneur de deux équipes moins 13 et entraîneur de la pré-nationale du Frontignan Handball.
Donc selon toi, quelles règles pourraient-elles changer à l'avenir ?
À l'avenir ? Niveau règles, je dirais plutôt peut-être ajouter une ligne à deux points à une dizaine, douzaine de mètres, s'inspirer de ce qui se passe actuellement sur Internet, qui est la Kings League, et ce qui ferait du coup par exemple créer des nouveaux styles de handball, j'appellerais ça. Donc commencer par du 1 contre 1, puis du 2 contre 2, puis des matchs qui évoluent. Avec, de toute façon, il y a l'expansion déjà du beach handball, donc plutôt un nouveau handball. Comme le rugby à 7 s'est développé, il y a aussi le beach handball, donc voilà.
Selon vous, est-ce que la résine, elle sera encore acceptée sur les terrains ?
Alors là, ça c'est le grand débat. Dans les gymnases, on va dire... d'un peu partout, ça risque de petit à petit s'arrêter, sauf si on trouve un produit magique qui enlève la résine. Malheureusement, pour les compétitions plus hautes, pour moi, c'est complètement impossible. On ne peut pas jouer au handball sans ça. Ça enlève trop de spectacles, trop de trucs. Et je pense que la résine restera tant qu'on ne trouvera pas une solution adéquate et quelque chose qui nous permettrait d'avoir l'équivalent de la résine, quoi.
Est-ce que vous pensez que le handball serait un jour un sport aussi connu que le football ?
Non, parce que c'est un sport qui est beaucoup plus jeune que le football. Le football a été créé dans les années 1870, le handball dans les années 1970, donc il y a 100 ans d'écart. Donc aussi connu que le football, non, pas du tout. Mais bon, c'est un sport qui a amené à se développer. Surtout, il y a une très grande expansion aux États-Unis. Donc, je pense que pour la connaissance, il faut que le handball se fasse connaître, du moins se fasse déporter aux États-Unis. Mais tant qu'il n'y aura pas de maxi superstar, un engouement qui se crée pour X ou Y raison, non, ça ne dépassera jamais le football. Mais ça peut avoir une énorme expansion.
Est-ce que vous trouverez intéressant de jouer avec des capteurs sur le corps, le ballon ? Ou un autre endroit à nous proposer.
Oui, ça peut être très intéressant parce qu'on pourrait voir en temps réel comment se sent le joueur, s'il a une baisse de régime, baisse de forme. Ça arrive très souvent dans les sports qu'on joue avec quelque chose sur le thorax pour voir nos pulsations par minute, pour voir plein de choses. Et ça se fait même au volley et ça se fait même dans d'autres sports, donc oui, c'est possible.
Est-ce que vous pensez que les compétitions mixtes pourraient apparaître dans le handball ?
Le sport féminin dans le handball, pareil, est en plein développement. Je pense que pour les catégories jeunes, jusqu'en moins de 13, pour moi, ça poserait aucun souci. Et après, par contre, dès que on va dire que les enfants rentrent dans leur pic de croissance, ça devient plus compliqué. parce qu'il y a une question de force et on va dire qu'à un moment, intrinsèquement et physiologiquement, une femme, du moins sportivement et entraînée pareil, sera un peu moins forte sur ces qualités-là. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est une moins bonne handballeuse, mais ça veut dire que physiquement, ça peut être plus compliqué.
Ben, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite une bonne journée.
Ben, y a pas de souci, passez une bonne journée.
Aujourd'hui, en 2050, les intelligences artificielles aident les arbitres à prendre des décisions plus justes en utilisant un système vidéo IA qui consiste à analyser en direct les actions offensives en attaque ou défensives en défense grâce à plusieurs technologies IA disposées sur le terrain, sur l'arbitre et les joueurs. Le port du protège-dents est devenu obligatoire et enregistre la puissance des chocs reçus au niveau du visage des joueurs, IA utilisée depuis 2025 en rugby.
La popularité du handball a augmenté grâce à une compétition organisée par des influenceurs qui s'intéressent de plus en plus au handball. Inspirée de la Kings League, une nouvelle forme de pratique de handball a été créée en 2046. Elle se joue sur les dimensions d'un terrain de beach handball, 27 mètres par 12 mètres, à 4 contre 4, mais avec des règles différentes du handball fédéral. La neutralisation ou blocage de l'attaquant est interdite et toute faute est sanctionnée d'un pénalty. Le jeu est donc plus spectaculaire et plus médiatique.
Enfin, la nouvelle invention expérimentée au football depuis 2048 sera mise en place en 2052. Certains entraînements de handball se feront en réalité augmentée, avec des casques virtuels pour améliorer le jeu au poste, c'est-à-dire du jeu spécifique au poste occupé par les joueurs, ailier, pivot, demi-centre ou arrière. L'idée des compétitions mixtes n'a pas été conservée car la taille du ballon varie selon le sexe, taille 3 pour les hommes et taille 2 pour les femmes.
Certes, un produit éco-responsable a été créé pour éliminer sans effort la résine, mais sa production ne démarra qu'en octobre 2050. L'utilisation de la résine reste donc interdite dans certains gymnases, notamment à cause de la difficulté de son retrait sur le parquet et des frais de nettoyage engendrés. Des études scientifiques sont en cours pour créer un revêtement adhérent ressemblant à un adhésif à mettre directement sur le ballon et ne laissant aucune marque.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci à vous trois. Nous partons du côté du désert marocain, plus précisément vers le rallye des gazelles. Léa, Abigail et Maxime ont recueilli le témoignage d'une participante. Nous les écoutons, c'est à vous.
En 2025, le rallye des gazelles se passait dans le désert du Maroc. C'était une course unique en son genre qui rassemblait 380 femmes âgées de 18 à 71 ans, de tout horizon et de toute nationalité. Ce rallye donnait une autre vision de la compétition automobile à travers un éco-concept original créé en 1990. Pas de vitesse, pas de GPS, mais navigation à l'ancienne en hors-piste.
Cette course automobile était la seule à avoir obtenu la norme environnementale ISO 14001. Cette norme permet l'amélioration de la performance environnementale, le respect des obligations de conformité et la réalisation des objectifs environnementaux. Les organisateurs veillaient à compenser les gaz à effet de serre. Même leur voiture était écologique car les compétitrices utilisaient des Volvo EX40 AWD 100% électriques.
Maintenant, l'interview d'une des participantes, Audrey Bourne, réalisée en cette année 2050.
Bonjour Madame Bourne, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, alors je m'appelle Audrey Bourne, je suis professeure d'histoire-géographie.
Comment avez-vous connu le rallye des gazelles en 2025 et comment votre passion pour ce rallye est-elle arrivée ?
Pour ce rallye, je l'ai connu en farfouillant sur Internet. Mon compagnon avait fait un trek dans le sable, donc dans le Sahara marocain. Et en regardant les possibilités pour faire quelque chose un peu similaire mais sans courir, parce que je n'ai pas assez de souffle pour ça, eh bien, j'ai allié la passion des voitures, du sport mécanique, au lieu, donc au Sahara. Du coup, ça s'est porté sur ce projet-là.
Comment avez-vous préparé cette course pour la première fois ?
Alors, sur la préparation, heureusement, on avait des cours de navigation qui étaient dispensés par l'organisme qui préparait le rallye. Dans les cours de navigation, c'est savoir placer des points GPS sur une carte à l'aide d'une règle et d'un compas. Sachant que moi, j'étais navigatrice, donc la pilote avec qui j'étais s'est préparée, elle, quand on a eu le 4x4.
Quel est le meilleur souvenir de cette aventure et la plus grande difficulté rencontrée ?
Alors, le meilleur souvenir, sans hésiter, c'est la journée dans les dunes. La conduite dans les dunes, c'était exceptionnel. Ça ressemble un peu au ski. Donc j'ai adoré la sensation dans la voiture. Et moi, en fait, je sortais très souvent pour caper, c'est-à-dire pour prendre le cap, les degrés, pour savoir où aller. Donc du coup, j'ai beaucoup marché dans les dunes toute seule et je me suis sentie vraiment seule au monde. Ça, c'était génial. Et du coup, le pire souvenir que j'ai eu, c'était la troisième journée où la voiture s'est enlisée dans la boue. Et en fait, on croyait qu'elle était morte, en fait, parce qu'elle ne redémarrait plus. Donc on a eu un moment de grande solitude à ce moment-là précis. Et heureusement, il y a un équipage qui est venu nous sauver de là et nous tracter.
Comment a évolué le rallye des gazelles depuis 2025?
Alors, depuis 2025, il n'y a plus de voitures thermiques sur le rallye. C'est la grande nouveauté. Maintenant, il n'y a que des voitures électriques. En 2025, il y avait seulement 6 équipages. Donc là, vraiment, ils ont respecté la norme ISO qu'ils avaient mis en place. Et sur cette norme, en fait, c'était de faire le moins de pollution possible. Et donc, via l'électrique, c'est un changement vraiment radical qui a permis à tous les véhicules possibles, en fait, de passer sur le désert. Aussi, avec les déchets sur place, j'oubliais les déchets plastiques, par exemple, sur les bouteilles, etc. Donc, il y a eu une grande révolution. Hein. Maintenant, il n'y a plus de bouteilles plastiques sur place. On demande aux gazelles de prendre des gourdes, de se recharger en eau via un petit camion citerne qui est sur place, en eau potable. Et ça, c'est vraiment une révolution.
Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci.
Comme l'a dit Madame Borne, comparé à 2025, le rallye des gazelles n'a plus de voitures thermiques, mais des voitures électriques comme des Jeep, Nissan et Volvo.
Mais aussi des nouvelles marques comme Axilé, Soluto et Rima.
Maintenant, les bouteilles en plastique et les déchets n'existent plus dans ce rallye.
Les gazelles rechargent leurs gourdes en eau grâce à des camions-citernes qui sont mis en place le temps de l'événement.
La fuite en CO2 qui a été créée en 2025 n'existe plus.
Merci de nous avoir écoutés. Nous vous remercions tous les trois. Nous clôturons le domaine sportif avec Niels et Gauthier qui vont évoquer les évolutions des Jeux Olympiques en 2050. On vous écoute.
Bonjour, avec Niels, nous allons vous parler des JO par rapport à 2025.
Actuellement, on a des compétitions entre les robots et les athlètes, ce qui n'était pas le cas en 2025, car il n'y avait pas de robots.
Aujourd'hui, les JO se passent à Roboland.
C'est un pays qui est récent et qui se situe sur une île habitée par les robots, au milieu de l'océan. Grâce aux prothèses actuelles, les sportifs handicapés peuvent concourir avec les sportifs valides. Les paralympiques n'existent plus. Dans le passé, les JO, c'était une compétition entre les athlètes de chaque pays qui s'affrontaient dans des sports pour espérer la médaille d'or. Les sports qui ont donné le plus de médailles aux athlètes français dans les JO de Paris 2025 sont le surf, le BMX racing, l'escrime, le judo et le VTT. Au total, il y a eu 64 médailles, dont 16 en or, 26 en argent et 22 en bronze. L'évolution des Jeux Olympiques ont été positives, car nous avons des nouveaux sports plus modernes comme le swimrun, backdraft, esport, ezermine et techball. Mais le point négatif, c'est le réchauffement climatique, qui engendre la disparition de certains sports comme le rugby et le foot, qui se jouent sur pelouse. En effet, nous manquons d'eau pour entretenir les terrains, donc tous les sports sur pelouse sont en train de disparaître. Ils seront irremplaçables dans certaines villes comme Los Angeles, Sydney et Turin à cause du stress hydrique.
Merci à tous les deux. Nous allons évoquer l'avant-dernier sujet avec Inès et moi-même concernant l'intelligence artificielle et son utilisation en 2050.
L'intelligence artificielle, aussi appelée IA, désigne un domaine de l'informatique capable d'effectuer des tâches qui feraient appel à l'intelligence humaine. En 2025, seule la reconnaissance de forme, les perceptions comme visuelles ou auditives, la prise de décision en passant par la traduction entre langues qui étaient intraduisibles selon la façon de parler.
Beaucoup d'autres alternatives existent de nos jours. Un sondage mené il y a 25 ans relève que 97% des Français âgés entre 18 à 24 ans ont déclaré savoir ce qu'est l'IA, contre 49% chez ceux de 75 ans. Or, maintenant, 92% des Français compris entre 13 et 75 ans affirment connaître et utiliser l'IA.
Auparavant, 51% des Français voyaient dans l'IA un danger autant qu'un progrès. À l'heure d'aujourd'hui, 68% la voient comme un très grand progrès dans la vie quotidienne et professionnelle. Effectivement, elle est un gain de temps énorme pour 94% des professionnels. À cause ou grâce à elle, les métiers commençaient à disparaître en 2025, comme les caissiers ou les employés de banque. Désormais, davantage disparaissent comme analystes financiers, ouvriers du bâtiment, emploi dans l'agriculture, pilote et même journaliste. À présent, nous allons nous appuyer comme métier sur la médecine pour vous faire réaliser l'importance de l'intelligence artificielle sur la vie professionnelle de nos jours. L'IA nous permet à ce jour d'apporter une grande aide aux médecins, contrairement à il y a 25 ans. Effectivement, en 2025, l'IA commençait à se développer progressivement. Des progrès fulgurants optimisaient la précision des diagnostics. En outre, elle améliorait la qualité des soins, médecine numérique, télémédecine, en passant par la robotique chirurgicale. Aujourd'hui, l'IA nous aide à 98% dans la médecine en général. Cela a été une prouesse pour le monde de la médecine de se faire assister et épauler par cette découverte foudroyante. Autrefois, des robots assistaient les chirurgiens pour de simples opérations, contrairement à maintenant où ils opèrent seuls. En effet, la précision était inégalée avec aussi une vision 3D haute définition et une interface ergonomique.
Dorénavant, les avancées frôlent la perfection au vu du pourcentage de réussite d'opération qui est de 99,9% à 100%. Or, précédemment, il était de 94% à 100%. Dans les cas les plus extrêmes, les cœurs sont remplacés par des prothèses électroniques pouvant se connecter au téléphone. L'IA de nos jours révolutionne aussi l'imagerie médicale. Les impressions 3D sont favorables au développement du diagnostic. La vision 3D est maintenant projetée dans la salle pour observer le corps humain au préalable visionné. Mais tout cela n'est rien à côté de la PIAS, l'abréviation de puce à intelligence artificielle scientifique. Elle permet de percevoir l'inimaginable et de vivre une immersion totale dans l'IRL, implantée dans le crâne au niveau de la tempe. Néanmoins, le risque d'infection n'est pas moindre. Dans 98% des cas, l'implantation est réussie grâce aux éventuels robots chirurgiens qui sont les seuls à pouvoir poser cette nouvelle technologie révolutionnaire au vu de la précision requise. Cela s'apparente au casque virtuel 3D d'il y a 25 ans qui pouvait se retirer. Or, la PIAS reste à vie. Elle sert aussi dans la vie quotidienne comme pouvoir contrôler sa mémoire, voir la chaleur grâce aux rayons infrarouges. Une aide vocale est présente lorsqu'on le souhaite. Malgré son prix exorbitant, elle est autant connue qu'utilisée. La médecine s'est énormément améliorée grâce à l'intelligence artificielle depuis une vingtaine d'années et ne cesse de s'enrichir.
Merci Loan et Inès. Nous terminons cette édition avec un sujet passionnant, les astronautes en 2050 et la planète Mars qui est notre nouvelle planète refuge. Mélissa et Melinda vont nous en dire plus, c'est à vous.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer sur le sujet de la planète Mars et l'intérêt qu'elle a suscité pour les astronautes. Plusieurs projets et idées sont nés au fil du temps. Nous allons vous dire quelle est cette planète, puis dévoiler ce que les personnes pensaient de Mars pour 2050, et pour finir, ce qui s'est vraiment passé au cours de ces années jusqu'en 2050.
Tout d'abord, quelle est cette planète ? Mars est une planète tellurique, c'est-à-dire faite de roches, dans le système solaire. Elle est la quatrième planète en partant du Soleil. Nous lui donnons aussi le nom de planète rouge, car sa surface est recouverte de poussière riche en oxyde de fer à l'origine de sa couleur rougeâtre. Elle se situe à 54,6 millions de kilomètres de la Terre.
Si nous faisons un bond en arrière, afin de voir comment cette planète a été perçue. Il y a 25 ans, Elon Musk pensait que le nombre d'hommes envoyés sur Mars pouvait augmenter rapidement. Dans son calendrier de colonisation de Mars, il prévoyait une première mission habitée dès 2029 et le développement d'une colonie autonome d'ici 2050. Vous allez peut-être me demander qui était Elon Musk. Elon Musk était un entrepreneur, chef d'entreprise, homme politique et milliardaire sud-africain, canadien et américain. Il était considéré comme la personne la plus riche du monde en 2025.
La colonisation d'Elon Musk s'est bien passée à l'époque. C'était un exploit. Elle n'a cependant pas fonctionné du premier coup. Les premiers hommes envoyés sur Mars, dont le français Thomas Pesquet, ils ont commencé à installer des plantations sur la planète pour faire quelques expériences. Ils ont essayé une première fois. Et malheureusement, cela fut un échec. La deuxième fois, ils ont bien réussi et ont prouvé au monde qu'il restait encore un espoir d'installer de manière sûre et pérenne la vie sur Mars. Maintenant, en 2050, on prévoit d'envoyer plusieurs colonies pour faire de Mars une planète habitable et remplie de vie. Merci à tous de nous avoir écoutés.
Merci à tous nos journalistes et reporters ainsi que nos chers auditeurs de nous avoir écoutés. Nous rendons l'antenne. Nous vous souhaitons une bonne journée. A très vite sur Radio Simone en 2051.